saluer. Quand je me déplace au nord de la France, on me dit que j'ai un accent méridional, que au moins vous ne me le direz pas ici. Hein. Je suis provençal, figurez-vous. J'ai grandi à Carpentras. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Pendant mes études, j'ai participé à la création de la petite église réformée évangélique de Lambesc, où il y a maintenant un pasteur à mi-temps. Donc, une petite église nouvelle dans un village où il n'y avait pas d'église protestante. Voilà. Donc, je m'appelle Charles Nicolas. Charles est mon prénom et Nicolas, mon nom de famille. C'est pas évident, hein. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire encore? Mais vous savez peut-être que la faculté d'Aix-en-Provence a fêté ses 50 ans le week-end dernier. J'étais moi-même en week-end avec l'église CAEF d'Istres le week-end dernier. Et mardi soir, j'étais à Montélimar pour une soirée de réflexion sur les aidants. Donc voilà, je suis à la retraite depuis un an, mais en fait, je me déplace tout le temps parce qu'on m'invite pour prêcher ou pour apporter des formations ou animer des temps de réflexion. Et voilà, je suis pris là jusqu'au mois de juillet prochain, j'ai plein de dimanches d'événements. C'est une retraite bien, bien remplie, j'en suis reconnaissant. Je demande aussi au Seigneur de me donner la sagesse de trouver le bon rythme et la bonne mesure. Hein. Voilà. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir et demain, je n'avais jamais traité de manière aussi précise que je l'ai fait en me préparant. Et malgré plus de 40 ans, bientôt 45 ans de ministère pastoral, eh bien, je dois dire que ça n'a pas été un sujet facile à mettre en place. Ce n'est pas évident, les dons spirituels. Ce n'est pas évident. Et en un sens, c'est normal. Parce que ben, quand on parle de Dieu, quand on parle du Saint-Esprit, évidemment, on n'est pas ignorant, mais on ne peut pas dire qu'on maîtrise tout ça. La perfection, disons, hein. C'est pas un sujet scientifiquement circonscrit. Voilà. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité, un peu de crainte et aussi beaucoup d'espoir et d'attente que nous pouvons nous pencher sur ce sujet. Peut-être je vais prier tout de suite et puis on va commencer. Seigneur, c'est pour moi une grande joie de découvrir une nouvelle ville où tu n'es jamais venu et une nouvelle église. Mais pour moi, elle est nouvelle, pour toi, elle n'est pas nouvelle. Et notre assurance, c'est que tu es attentif, Seigneur, à chaque assemblée chrétienne, grande ou petite. Tu la chéris dans ton cœur. Tu as pour elle des trésors de ressources, de grâces, de révélations. Et notre désir, Seigneur, c'est de recevoir la part que tu as préparée pour nous. Et nous nous courbons devant toi, Seigneur, et en même temps, nous réjouissons de te connaître, du chemin parcouru. Et le chemin qui est devant nous, on ne le connaît pas, mais si tu es avec nous, Seigneur, nous voulons nous y engager sans crainte. Seigneur, c'est au nom de Jésus, Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous nous approchons de toi, nous ouvrons notre cœur, Seigneur, et nous te prions de nous prendre par la main, de nous enrichir encore dans ta grâce. Amen. Alors, j'enverrai à Jean-Louis ou à Christine ou, mes notes complètes dans la semaine. Il y aura quand même quelques pages de notes avec les références, les annexes, tout ça. Donc vous aurez un document propre que vous pourrez exploiter si vous le voulez, à titre personnel ou bien pourquoi pas en groupe, enfin bon. Donc vous pouvez prendre des notes si vous voulez pendant l'exposé, mais ça serait pour vous aider à écouter. Certains écoutent mieux quand ils prennent des notes, ou bien pour le moment d'échange que nous aurons ensemble. Je vais essayer de ne pas être très très long pour qu'on ait un temps d'échange. Et donc, au fur et à mesure que j'avance dans ma présentation, notez les points qui mériterait qu'on y revienne ensemble. D'accord ? Voilà. Quand on s'est réunis avec le conseil par téléphone il y a quelques semaines, avant qu'on se quitte, j'ai mentionné une citation, et je vais commencer par là. Une citation qu'on trouve dans un livre du 15e siècle. 15e siècle, peut-être même 14e siècle. Un livre que les catholiques connaissent mieux que les protestants, qui s'appelle L'Imitation de Jésus-Christ. Donc c'est un livre de piété, avec pour chaque jour une méditation très profonde, assez bien accrochée au texte biblique. Et le premier chapitre de ce livre, L'Imitation de Jésus-Christ, voilà, c'est quand même un livre classique. Le premier chapitre se termine avec cette phrase qui me paraît très importante. Donc, je vous la donne. Il vaut mieux plaire au Saint-Esprit que d'en connaître la définition. Voilà. Presque on pourrait rester déjà 30 secondes en silence là pour réfléchir à cette phrase. Il vaut mieux plaire au Saint-Esprit que d'en connaître la définition. Et donc, cette phrase, elle est rassurante, vous voyez, parce que si on cherche à définir le Saint-Esprit, on va avoir un peu de peine, vous comprenez ? Ce n'est pas une formule chimique, ce n'est pas une formule mathématique, ça ne rentre pas dans une case prédéfinie, ce n'est pas une science qui se contente de psychologie, de psychanalyse, etc. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Ce n'est pas n'importe quoi. On n'est pas ignorant concernant le Saint-Esprit. On n'est pas ignorant. On ne peut pas dire qu'on peut en faire le tour si facilement. D'accord ? Cette phrase nous montre aussi que le Saint-Esprit est moins un sujet d'étude ou un objet d'étude sur lequel on se penche, que une personne à qui nous devons être agréables. Le Saint-Esprit peut être attristé ou réjoui. C'est une information intéressante. Voilà. On peut attrister le Saint-Esprit. Si on attriste le Saint-Esprit, on peut ne pas s'en rendre compte d'ailleurs. Vous voyez, quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit continue comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas bon signe. Normalement, sur le tableau de bord de nos voitures, il y a des lumières rouges qui s'allument quand il manque de l'huile ou quand le radiateur est percé, vous voyez. Et donc, quand on s'arrête, si le Saint-Esprit est attristé par l'attitude que nous avons eue, malheureusement, est-ce qu'il y a le clignotant qui s'allume? Est-ce qu'on s'en rend compte? Voilà une vraie question. C'est une vraie question. Et si le Saint-Esprit est réjoui par notre attitude de fidélité, de confiance, de sensibilité, d'écoute. On parlera de l'écoute. Si le Saint-Esprit est réjoui, ben, c'est tant mieux pour nous. Quoi. Parce qu'il y a, dans notre cœur, il y a un lien, il y a un point de contact entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Hein, vous le savez, hein, l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc le chrétien, il a trois témoignages, le témoignage de l'Écriture, le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur qui lui dit, c'est non seulement c'est vrai, mais c'est vrai pour toi aujourd'hui. C'est le témoignage des frères et des sœurs qui ont reçu cette même confirmation dans leur cœur. C'est pour ça que des chrétiens tiennent en situation de persécution. Vous voyez ? En situation de persécution, quand tout vient contredire ce qu'on a appris, ou ce qu'on attend, ou ce qu'on demande à Dieu, quand tout vient contredire, on demande que ça s'arrête, ça continue, eh bien, il y a cette foi ancrée dans le cœur par ce triple témoignage. Et le Saint-Esprit joue un rôle très important. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas un objet dont on parle comme ça, comme on parlerait du micro ou de la chaise. C'est Dieu. C'est une des personnes de la divinité. Voilà. Et à lui, nous devons être agréables. Voilà mon introduction. Retenons cela parce que ça me paraît vraiment très important. Voilà. Cette introduction, elle oriente notre attention vers Dieu. Reconnaissons que notre attention est souvent tournée vers nous-mêmes. Je suis fatigué, je suis triste, je sommeille, j'ai envie de ceci, j'ai été déçu par cela, je suis un peu en colère. C'est un peu normal quand même, hein, on n'est pas des... Voilà. Mais il est souhaitable que notre attention se soucie de ce que Dieu pense, de ceci ou de cela. Par exemple, un pasteur fait une visite et une situation difficile se présente. Il n'a pas forcément la réponse comme ça, hein. Il pourrait dire, qu'est-ce que Dieu pense de cette situation ? Mais on va y réfléchir, je reviens dans 8 jours. Vous voyez la démarche ? Ça paraît une très bonne démarche, qu'un pasteur peut faire, qu'un ancien peut faire, que n'importe quel chrétien peut faire. Vous visitez une personne malade, ou une personne endeuillée, ou une situation difficile, vous dites voilà, je prie pour que ça s'arrange pas. Je comprends pas. Puis il y a celui-là qui m'a déçu, et puis il y a ceci que je ne comprends pas. Mais bon. Alors, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? On va prier chacun de notre côté, et dans 8 jours, on en reparle. Probablement, dans 8 jours, les choses auront avancé. Je suis dans mon sujet, là, frères et sœurs, hein, vous voyez? Satan, reconnaître qu'on ne sait pas, c'est une clé. Celui qui sait tout, il a besoin de personne, même pas de Dieu. Il sait tout. Il a sa caisse à outils, il a ses formules, il a ses talents, il sait parler, il sait calculer, il a une bonne personnalité, il a une expérience. Si Dieu est en vacances, il ne s'en rend même pas compte. Il se débrouille tout seul, comme dans une association, vous voyez. L'Église, comme une association, on sait faire. Bon, mais Dieu attend. Dieu dit à ce moment-là, vous avez votre récompense. Vous savez, Jésus dit ça dans le sermon sur la montagne. Ceux qui prient au coin des rues, ceux qui disent « j'ai donné 100 euros à quelqu'un », ah bon, ben vous avez votre récompense. Vous n'aurez pas celle que le Seigneur a préparée, mais vous avez la vôtre. Quoi. Vous êtes débrouillé tout seul. Vous voyez ? Donc, commencez par reconnaître que on est un peu démunis quand même devant beaucoup de situations. Vous êtes d'accord avec ça, hein ? On est démunis. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on s'attend à Dieu. Voilà 2 attitudes. C'est l'attitude du petit enfant, quand même. Hein. Vous ne trouvez pas? C'est l'attitude du petit enfant qui dit, voilà, mais comment tu vas faire maintenant? Ben, je ne sais pas. Et alors? Et il dit, ben, il attend qu'on vienne à son aide, vous comprenez? Et donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas rester des petits enfants toute notre vie. En tant que chrétien, on ne doit pas rester des petits-enfants, on doit devenir des hommes et des femmes capables de jugement, de sagesse, et en même temps, on doit devenir des petits-enfants. Quand Jean écrit, il dit « Petits-enfants, je vous écris ces choses. » Petits-enfants, ce n'est pas des enfants. Même au chapitre 2, il dit « Petits-enfants, vous n'êtes plus des enfants. » Mais il les appelle petits-enfants. Vous voyez le paradoxe? C'est le sujet, hein, frères et sœurs. C'est le sujet. L'attitude de l'enfant qui dit « je ne sais pas, je ne comprends pas bien, mais Seigneur, je mets ma confiance en toi, maintenant je vais me coucher parce que je suis fatigué, et demain, on verra comment, voilà. Ne vous inquiétez pas de demain. » Cultivons cette attitude de l'enfant qui ne sait pas et qui s'attend à quelque chose. On voit ça très bien aussi quand Jean et Pierre, après la Pentecôte, entrent dans la ville, et là, il y a un paralytique. Et Pierre dit « voilà, je n'ai ni argent ni or, mais... ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. » Voilà. Mais le texte dit, en parlant du paralytique, il regarda Pierre, il s'attendait à recevoir quelque chose. C'est très beau, hein ? Il s'attendait à recevoir quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de rêver. Je suis obligé de parler de ça en 3 minutes. Hein. Ce n'est pas dans mes notes, mais je le dis quand même. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vois le mot « rêve » apparaître dans le vocabulaire chrétien, à mon avis, ce n'est pas une bonne affaire. Voilà. Laissons les rêves aux rêveurs. Laissons les rêves aux matérialistes qui ont besoin de s'évader un petit peu. Laissons les rêves aux artistes, à ceux qui se droguent ou je ne sais pas quoi. Voilà. Le monde est si triste, il faut bien rêver. Ce n'est pas notre programme de rêver. J'espère que vous êtes d'accord, hein. L'espérance chrétienne, ce n'est pas tout à fait un rêve quand même, hein, c'est autre chose, voilà. Bon, ça, c'est pas très important. Et donc, il y a des chrétiens qui font des rêves, et après, ils demandent à Dieu que leur rêve se réalise. Ce n'est pas sûr que ça marche. abandonnons nos rêves et entrons dans les projets que Dieu a préparés pour nous. Ce n'est pas facile forcément à vivre, hein, parce qu'abandonner un rêve, si un rêve nous a aidé à vivre pendant 30 ans, abandonner un rêve, c'est un peu mourir. Et c'est peut-être la condition pour accueillir ce que Dieu a préparé. Alors, on ne peut pas tout ajouter comme ça, empiler, vous voyez, il faut faire de la place. Et repentez-vous, ça veut dire faites de la place. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là, il est à la porte. C'est pas la peine de faire des kilomètres, c'est pas la peine de sauter en l'air, de jouer de la batterie pendant 3 heures. Non, non, le royaume de Dieu, il est là. Il est à la porte, il s'est approché de vous. Mais faites de la place, faites de la place. Enlevez les obstacles. Enlevez les obstacles, enlevez ce qui empêche. Vous allez voir que Dieu n'est pas en retard. Ses promesses sont véritables. Donc enlevez les obstacles, d'enlever les obstacles et enlever les rêves. Voilà, il faudrait que je le rajoute à mes notes, mais bon, peut-être que j'y penserai. Premier point, c'est toujours mon introduction, hein, mais voilà, ça me paraît important ce qu'on a dit déjà. L'expression don spirituel, puisque c'est un petit peu l'intitulé de notre sujet, n'est présente qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, qu'une seule fois. Don spirituel, c'est deux mots associés, une seule fois, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 11. Voilà, je le lis. Je désire vous voir, dit Paul, pour vous communiquer quelques dons spirituels au singulier, c'est-à-dire un certain don spirituel, ou un pour chacun, c'est pas toujours facile à comprendre, afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble. Voilà, c'est le seul emploi de l'expression don spirituel. Donc, c'est pas 50 000, hein. Voilà. Et dans cette expression, il y a deux mots, le mot charisma, même l'écrire en grec si vous voulez, et le mot pneumaticon. Je suis obligé d'écrire ces deux mots, peut-être que c'est le seul mot que j'écrirai, hein, toute la soirée, mais ces deux mots quand même vont nous aider à comprendre ce que dit la Bible. Donc pneumaticon, ça veut dire de l'esprit, de l'esprit. Charisma, de l'esprit, voilà. Pneumaticon. Dans charisma, il y a la racine charis, qui veut dire la grâce. C'est pourquoi c'est traduit par don, parce que la grâce est un don, et un don c'est une grâce. Mais oui, c'est pas le mot don, il y a un autre mot pour dire don, doron en grec. Donc là c'est charisma. Et dans pneumaticon, il y a pneuma, l'esprit. Pneuma, l'esprit. Voilà. Et donc, le traducteur, en tout cas second, traduit « Je désire vous communiquer un don de l'esprit, pneuma, charisma pneumaticum. Pneuma, c'est l'esprit. » Avec un grand E ou un petit E. C'est le contexte qui montre si s'agit plutôt de l'esprit de l'homme ou de l'esprit de Dieu. Bon, voilà, la vie du grec, comme ça. Mais ces deux mots, on va les retrouver séparément dans d'autres passages. Charisma. Que charisma. Alors, c'est traduit par don aussi, ou même don spirituel, et quelquefois que pneumaticum. On le traduit aussi par don. Vous voyez, les traductions ne nous aident pas toujours. Voilà. Et notamment, au début de 1 Corinthiens 12, qui est le grand chapitre, c'est pas le seul endroit, mais quand même le grand chapitre sur le don spirituel, eh bien, Paul commence en disant « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des pneumaticons, donc des spirituels, des spirituels, ça ne veut rien dire en français. Donc on traduit des dons spirituels. Ça veut dire de ce que l'esprit octroie, donne. Voilà. Là, c'est ce mot qui est employé. Je ne veux pas pousser dans l'ignorance au sujet des pneumatiques. D'après ma compréhension, mais voilà, pas toujours unanime, ces pneumaticons sont ceux qui sont mentionnés quelques versets après, à l'un le don de discernement, à l'autre une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre la foi, à l'autre le don des miracles, à l'autre le don des guérisons, à l'autre les langues et le discernement. Voilà. À mon avis, les pneumaticons, ce sont ça. Je vous donne tout de suite, sans attendre plus, presque l'aboutissement de mon étude. Donc les pneumaticons, plutôt des dons ponctuels qui interviennent sans qu'on s'y attende en situation délicate. Ils ne sont pas liés à des études qu'on a faites, à une réflexion, etc. Mais quand même, ils peuvent intervenir à tout moment. Un exemple assez classique, quand Jésus dit « Vous serez amenés devant des tribunaux », bonne nouvelle, hein, « Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, comme les petits-enfants. » Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Voilà. Donc l'expression à l'heure même montre que ça se programme pas, ça se planifie pas, ça s'organise pas. Et on ne peut pas dire moi je vais, moi je ne vais pas, voyez, parce que c'est donné comme une surprise. Même dans la vie de Jésus, on le verra. Jésus, à un moment donné, il est embarrassé. Ben, je vais le dire tout de suite, hein, comme vous êtes attentifs, je vois. Quand Jésus parle avec la Samaritaine, ben, il semble que c'est difficile pour Jésus, hein. Elle ne comprend rien. Ou alors il s'exprime mal, je ne sais pas comment il faut dire. Hein. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir. Oui, mais qui boira de cette eau aura encore soif. Enfin bon. C'est un quiproquo. Non, c'est Jésus qui parle, hein. C'est un quiproquo. Ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Quelqu'un disait tout à l'heure, mais on aimerait être au temps de Jésus. Ben oui, au temps de Jésus, ce n'était pas tout réglé. Quoi, hein. Voilà. Et tout d'un coup, soudainement, Jésus dit, va chez ton mari. Alors, ce n'est pas marqué en note don de connaissance, hein. En fait, à mes yeux, ça ressemble très fort. Voyez. Et donc, Jésus lui-même, dans ce moment, est secouru par l'Esprit. Jusque-là, parce qu'on dit Jésus était Dieu. Jésus n'était pas tout à fait Dieu, hein. Jésus était Dieu fait homme. Donc, Jésus était un homme aussi. Démuni comme nous. Et ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il a cru et parce qu'il a obéi et parce qu'il a reçu. Je reçois de mon Père tout ce que je vous dis. Il était comme nous, Jésus. Il fallait qu'il soit secouru. Il fallait qu'il apprenne. Il a appris, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes, a dit l'Épître aux Hébreux. Et donc Jésus, là, tout d'un coup, on peut imaginer que Jésus soupire dans son cœur. Hein. Ça, c'est pas un péché de soupirer, hein. Sinon, il y en a qui peuvent jurer souvent. Hein. Il dit, Père, qu'est-ce que je fais avec cette Samaritaine qui ne comprend pas? Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui dit, parle-lui de son mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Je dis, oui, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Et cette femme dira un peu plus tard, voilà un homme qui a dit, c'est comment? Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ce village se convertit quand même. Voilà. Et donc, vous voyez, je trouve que cet exemple est quand même intéressant, parce que c'est Jésus, donc l'imitation de Jésus-Christ, hein, ça nous parle un petit peu. Et puis, c'est une situation, on peut dire, toute humaine, qui peut ressembler à ce que nous pouvons vivre nous-mêmes ici ou là, dans la rue ou ailleurs. Et on voit que Jésus a besoin d'être secouru, quelque part. Ça nous rassure un peu, on pourrait dire. Et il est secouru d'une manière que je pense qu'il n'imaginait pas lui-même quelques instants auparavant. Et voilà, il y a une bascule qui se... Mais un enfant peut recevoir une parole comme ça. Quelqu'un qui est converti depuis 3 jours. Et puis, exceptionnellement, même un non-chrétien. Parce que, je dis exceptionnellement. Parce que normalement, avec un non-chrétien... Saint-Esprit n'a pas d'accès, vous voyez. Mais si la messe de Balaam a pu parler à Balaam, un non-chrétien peut parler aussi un jour de la part de Dieu. Vraiment, hein. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Ça veut dire que Dieu fait n'importe quoi, c'est pas un Dieu de désordre, mais si Dieu veut utiliser une pierre pour en faire autre chose, il le fait, vous comprenez. Donc, il peut arriver qu'un non-chrétien, à son insu, sans le vouloir, un non-chrétien, hein, qui n'a pas l'esprit dans son cœur, Dieu l'utilise pour donner une parole à propos. Je ne l'exclus pas. Je voulais faire remarquer aussi autre chose, entre l'esprit et la grâce, c'est pas exactement la même chose, hein. La grâce c'est charis, l'esprit c'est pneuma, bon, ce sont deux réalités différentes, mais qui ont des points communs, quand même. Les deux portent la vie, les deux viennent de Dieu, les deux viennent au secours. Si l'esprit me console, c'est une grâce, vous comprenez? Et si par la grâce je connais Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit me l'a révélé. Donc, ça c'est intéressant quand même, parce qu'on a dit ces deux mots, charisma, pneumatikon, sont différents, mais ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient associés dans ce passage que j'ai mentionné, Romains 1, 11, et ce n'est pas étonnant qu'ils nous aident à cerner un petit peu notre sujet, même si, on le verra, ils nous. De mon point de vue, il désigne quand même des réalités qui sont distinctes. Pas opposées, mais distinctes. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir et demain matin. Pourquoi pas demain après-midi. Voilà. Donc les deux procèdent de Dieu et les deux viennent à notre secours, au secours de notre faiblesse. Mais d'accord. Jusque là, on est d'accord ? Bon. C'est bon signe, hein ? On ne se connaît pas, mais d'accord. C'est formidable quand même, hein ? Je trouve. Alors maintenant, je voudrais évoquer la parabole du sept et des serments. Dans mon esprit, tout ça est lié, vous voyez. Alors, vous la connaissez, on va raconter, en plus, il y a des vignes ici un peu partout. La parabole du sept et des serments. C'est la grâce ou c'est le Saint-Esprit qui passe du sept au serment? Je ne sais pas trop, hein. Je ne sais pas trop, Jésus ne le dit pas. Mais quand même, quelque chose passe du sept au serment. Là, on est d'accord, hein, aussi. C'est sûr.
Ce texte est quand même extraordinaire, hein. C'est la même sève, frères et sœurs. C'est la même sève. Donc, c'est la sève du sept qui se retrouve dans le serment. Vous voyez notre sujet ? C'est notre sujet. Même si dans ce passage, cette parabole, il n'y a pas le mot pneumatikon ou charisma, mais il y a une communication. Il y a une communication de l'un à l'autre, mystérieuse, par une greffe. Une greffe, c'est mystérieux. Et le cèpe n'est pas le serment n'est pas le cèpe, mais ils forment une même plante. Ah, cette expression, une même plante, on la retrouve dans Romains 6. Nous avons été unis dans la mort de Jésus-Christ pour être unis à sa résurrection et former une même plante. Paul le dit comme ça, hein, Romains 6, je ne sais plus combien, verset 5 ou 6, quelque chose comme ça. Une même plante. On dit, oh là là, ça c'est un peu exagéré. Jésus le dit, Paul le dit. S'ils exagèrent, vous expliquerez avec eux, hein, mais moi je pense que ce n'est pas juste pour faire joli, quoi. Ce sont des réalités, frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous faire rêver. En plus, l'image du corps et des membres, c'est aussi une réalité. Hein. Jésus dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà. Et l'ensemble, c'est Christ, la tête et le corps. La tête et le corps, c'est Christ. Incroyable ça, quand même. Hein, 1 Corinthiens 12, 12. De même que les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il appelle le corps Christ. Oui, cette unité. Tout ça, ça rend, non pas moins merveilleux, mais moins impossible, le fait que quelque chose qui est en Dieu nous soit communiqué. Qu'on en soit les récepteurs. Les récepteurs. Parce qu'on peut dire, non, c'est pas possible. Je suis un pêcheur, voilà. Puis j'ai pas fait d'études de théologie, et puis dans ma vie, il y a des choses qui vont encore pas trop bien. Ah bon ? Oui, enfin, vous connaissez quelqu'un qui a tout réglé. Pas encore, hein, pas encore. Et donc, voilà, Dieu, avec le plus petit d'entre nous, peut dévoiler sa grâce et communiquer les richesses de la vie de l'esprit d'une manière qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Je ne parle pas de rêve, je parle de réalité. Au passage, la parabole du cèpe et des sarments, le sarment qui ne porte pas de fruits, le sarment qui porte du fruit, il le coupe. Oui, c'est pas juste des choses faciles. C'est pas, vous voyez, il faut ôter et recevoir, couper et recevoir. Dans Romains 6, Paul parle d'être baptisé en Christ. Il ne s'agit pas du baptême d'eau, hein. Baptisé en Christ veut dire uni à Christ, immergé en Christ, on pourrait dire, voilà. Dans sa mort et dans sa résurrection. Il y a la résurrection, mais il y a la mort. Vous comprenez ? La dimension de la grâce exclut la dimension de mérite. On est d'accord avec ça, hein ? On ne mérite pas. C'est pour ça qu'on peut s'y attendre, on ne le mérite pas. Il n'y a pas de mérite, mais il y a des conditions. Je ne sais pas si ça vous choque d'entendre ça. Il n'y a pas de mérite, mais il y a des conditions. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce n'est pas des mérites, mais c'est une condition. Voilà. Donc ça veut dire que cette connexion avec Jésus, il faut la soigner si vous voulez. Il faut la soigner, il faut l'entretenir. Il faut que ça passe. Voilà. Et c'est un miracle, et c'est un mystère. Ça reste un mystère. On est d'accord, hein? Il faut accepter. Les protestants n'aiment pas trop les mystères, mais quand même, des fois, il faut accepter que. Voilà. Il vaut mieux plaire au Saint-Esprit que d'en connaître la définition. Quelqu'un vit cela, il ne comprend pas comment ça se fait. Il ne comprend pas, mais il le vit. Et nous, on commence à comprendre, et peut-être on ne le vit pas. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Le comprendre et pas le vivre, ou pas le comprendre et le vivre ? Toute ma famille, à part mes parents, mes soeurs, sont catholiques, des tantes religieuses, etc. Elles sont beaucoup moins instruites que nous dans l'écriture, c'est clair. Hein? Mais je vois dans la vie de certaines d'entre elles des fruits qui me font envie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont une attitude d'humilité, vraiment d'humilité, de soumission, de simplicité. Alors, je viens de citer trois attitudes. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit ? Humilité, soumission, simplicité. Le Seigneur aime beaucoup ça. Et donc, elles sont moins instruites, hein, mais ces qualités, ce n'est pas des qualités. Ce n'est pas des qualités, c'est des attitudes, n'est-ce pas ? C'est des attitudes de disciples. De disciples. Leur permettre de recevoir, j'allais dire, grâce sur grâce. Et quelqu'un entend des prédications évangéliques depuis 30 ans, je le dis comme prédicateur évangélique, vous voyez, donc je ne dirais pas que je suis méchant avec les autres, hein. Voilà. Il étudie la Bible toutes les semaines depuis 30 ans et il ne vit pas encore ces choses qui relèvent de la simplicité, de la soumission et, qu'est-ce que j'ai dit, de l'humilité. Il vaut mieux plaire au Saint-Esprit d'en connaître la définition. Et donc le chemin que le Seigneur trace devant nous n'est pas forcément celui que nous avons imaginé. Et là, en disant ça, je pense à Naaman le Syrien. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman le Syrien ? Il vient vers Élisée avec des montures chargées de cadeaux. Et il dit, voilà, quand je vais venir, Élisée va s'avancer. Et puis, Élisée envoie son serviteur. Et c'est pas comme on avait prévu. Il dit, moi-même, il aurait pu sortir, quoi. Presque, il fait demi-tour. Et le serviteur dit, tu vas te tremper cette fois dans le Jourdain. Il dit, mais ça va pas la tête. Il dit pas comme ça, mais... Il dit, mais dans mon pays, il y a des fleuves 10 fois plus grands que le Jourdain. Et c'est le serviteur de Naaman qui lui dit, mais quand même, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Là, c'est pas compliqué, fais-le. Vous voyez la mort, vous voyez la mort à soi-même, le dépouillement. C'était quand même un grand dignitaire dans son pays, n'est-ce pas? Il plonge dans ce petit. C'est presque un ruisseau le Jourdain à certains moments. Il plonge là-dedans sept fois. C'est comme Jéricho, au bout de trois fois, on dit que ça suffit. Sept fois. Et la simplicité, l'humilité et l'obéissance. Et je peux répéter tout ça. Hein. Vous le rappellerez hein, ce soir. Et donc voilà, il est purifié de sa lèpre. Et en partant, il dit, voilà, je voudrais emporter un peu de terre de ce pays pour adorer le Dieu d'Israël. Oh, c'est trop beau. Voilà. Donc retenons cette dimension de ben, voilà, simplicité, humilité,
soumission.
Merci. Vous voyez qu'on a besoin des uns des autres. Et donc, ce qui est sûr, ce qu'on voit là, c'est que ce ne sont pas nos réflexes naturels qui vont nous dire comment ça se passe. Et surtout pas aujourd'hui. Et surtout pas en Occident, où tout passe par la vérification de la logique, de la démonstration, de ce qui est visible, tout ça. Voilà. On est mal. C'est enregistré ou pas? C'est enregistré? Bon. Et je vais dire mal barré, mais si c'est enregistré, je ne vais pas dire mal barré. Hein. On est mal engagé, quoi. Hein. Voilà. Et donc, le réflexe naturel, ben, c'est de démontrer. Ben, le réflexe naturel, c'est de chercher à comprendre à tout prix pour vérifier que c'est bien conforme à la logique des choses. Et puis, en plus, la culture occidentale, et française en particulier, les valeurs des Lumières, qu'on nous rappelle tous les trois jours maintenant à la radio, les Lumières, je vous demande un peu les Lumières, hein. Les protestants étaient en prison pendant le siècle des Lumières, mais bon, voilà. On est censé avoir tout compris, tout démontré, et éclairer le monde entier avec nos découvertes humanistes, voilà, c'est l'homme à la place de Dieu. Voilà, là, on dirait, même nous qui sommes chrétiens, nous sommes influencés par cette mentalité, il faut le savoir. Nos enfants sont influencés. À notre corps défendant, c'est l'air que nous respirons, vous comprenez? C'est, comment dirais-je, ces personnes influentes qui nous entourent, les enseignants, les journalistes, les artistes, les hommes politiques, voilà, c'est en gros, c'est eux qui donnent le ton. Hein. Ils ont, comment dire ça, il peut y avoir des craignants Dieu parmi eux, hein. On ne le nie pas, il peut y avoir des craignants Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y a surtout des gens qui ont une très forte personnalité, une très forte volonté, une grande intelligence, et qui s'appuient sur ce que les hommes peuvent mettre en mouvement. Quoi. Et donc ils affirment des choses avec une audace qui peut nous intimider, nous mettre en difficulté, mettre la foi en difficulté. Le sol français est un sol difficile pour la foi, frères et sœurs. Et en disant ça, c'est pas une excuse pour dire bon, c'est comme ça, tant pis. Non, c'est pour dire ça vaut la peine de résister, de lutter, de pas suivre n'importe quel farfelu qui fait le beau dans l'écran de télévision, n'est-ce pas? Il fait le beau, mais quand il dort, peut-être il est pas si beau. Hein. Est-ce qu'il dort déjà? Qu'est-ce qu'il prend pour dormir celui-là qui fait le beau comme ça devant les autres? On perçoit beaucoup d'anxiété, vous le savez bien, beaucoup de détresse. Les gens ne veulent plus avoir d'enfants, enfin, on leur dit que la Terre va s'arrêter de tourner dans quelques jours, enfin, c'est fou, quoi. Alors, voilà. Et nous gardons une mentalité d'enfant, de disciple. Dans l'Évangile, ces deux mots sont synonymes, enfant et disciple. Ces deux mots sont synonymes. Voilà. Petit, voilà. C'est petit. Vous donnez un verre d'eau, voilà, la sœur m'a donné un verre d'eau à l'un de ses petits qui sont disciples. Elle ne perdra pas sa récompense. Vous voyez, petits et disciples, c'est pareil. Gardons notre posture de disciple, évitons le chant des sirènes qui nous font croire à des choses qui n'existent pas, et tenons-nous comme des disciples, obéissants, humbles et confiants. Tout ça que je vous dis, soumis, c'est pareil. Voilà. Eh bien, nous verrons que le Seigneur est fidèle à ses promesses. C'est quelle heure en fait? 18h18. Il faudrait pas que je m'arrête, non?
après qu'on puisse échanger, donc je vais pas m'allonger trop. Je vais pas m'allonger trop pour qu'on puisse échanger ensemble, parce que l'échange sera intéressant aussi. Hein. Mais voilà, je tombe sur une citation de l'apôtre Paul qui tombe bien. Hein. Ce qui était pour moi des gains, je les considère comme une perte. Vous voyez ? Faire de la place, pas cumuler. La grande tentation aujourd'hui, c'est de cumuler. Surtout pas renoncer. Renoncer, c'est un gros mot. S'abstenir, c'est un gros mot. Pas s'abstenir. On va quand même vacciner les enfants de 12 ans pour qu'ils puissent avoir des relations sexuelles tranquillement. Hein. Vous avez entendu parler de ça, hein, le vaccin contre le papillomavirus. Voilà. Surtout pas s'abstenir, ça serait vraiment dangereux pour l'équilibre psychologique de ces pauvres enfants. Pas renoncer, pas s'abstenir, voilà, cumuler les avantages de ceci, de cela et du reste. Et comme ça, plus on cumule, plus on est épanoui et heureux. Eh bien, la Bible ne dit pas cela. La Bible nous place devant des choix. La Bible nous place devant des choix. Et ces choix, ils peuvent être coûteux à certains moments. Mais pour ceux, un peu comme quand il est dit de la correction, hein. La correction, dans un premier temps, n'est pas un sujet de joie mais de tristesse. Mais ensuite, voyez, elle produit, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Mais aujourd'hui, c'est le tout de suite qui prime. Voilà, encore une caractéristique de notre temps, voyez. Tout de suite. On verra dans 8 jours. Non, tout de suite, maintenant. Ah bon ? Et la pédagogie, alors ? Et l'apprentissage ? Vous voyez, si on appuie sur un bouton, on va voir tout de suite, hein, on est content. Ça dure 30 secondes, on commence à trépigner, vous voyez. Et non. Et donc, il faut savoir pourquoi Jésus a passé 40 jours dans le désert. Sur 3 ans de ministère, 40 jours dans le désert. C'est beaucoup quand même, hein. Il faut dire, mais il y avait autre chose à faire, quoi. Et non. Vous voyez, 40 jours dans le désert, l'endroit où il ne se passe rien. Pourquoi cette école-là, pour Jésus, qui déjà parlait avec les docteurs de la loi quand il avait 12 ans. Voilà. Mais quand il sort de là, il est revêtu de la puissance de l'Esprit, et son ministère commence avec des manifestations de puissance et des paroles d'autorité. Il le fallait, frères et sœurs, il le fallait. C'était nécessaire. Et donc nous aussi, il nous faut apprendre de Dieu, les leçons que Dieu veut nous apprendre. Hein. Et ce n'est pas pour mériter la grâce, c'est pour qu'elle coule. Ce n'est pas pour acheter le Saint-Esprit, c'est pour qu'il trouve lui aussi sa liberté d'agir au travers de nous. Apprenons les leçons que Dieu désire nous apprendre, peut-être depuis longtemps. Et notamment, acceptons, je vais employer encore un mot un peu difficile, le mot échec. Le mot échec est difficile pour tout le monde, mais c'est une école qui nous fait grandir. C'est comme ça. Ceux qui n'ont jamais d'échec n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Ils apprendront. Alors, j'étais aumônier d'hôpital depuis 20 ans, je me suis encore, hein, bénévolement, dans une clinique et un EHPAD. Ceux qui n'ont pas vécu d'échec parce qu'ils ont eu de la chance, de l'argent, bonne santé, parents instruits, etc., ils apprennent sur le lit d'hôpital. Ils apprennent après un accident de voiture. Ils apprennent quelquefois sur leur lit de mort. Des leçons qu'ils n'ont pas apprises jusque-là, qui les font pleurer de tristesse, et quelquefois qui illuminent leur visage d'une joie qu'ils n'ont pas connue pendant toute leur vie. Enfin, ils apprennent quelque chose. Et donc, apprenons de nos échecs. Dans la Bible, tout le monde est passé par des échecs. Vous avez remarqué ça quand même ? Tous les personnages bibliques, hein, Abraham, Noé, enfin, tous les personnages bibliques, tous sont passés par la case échec. C'est-à-dire, c'est la fin de tout. Mais non, c'est le commencement de pas mal de choses. Et donc, il faut accepter d'apprendre notamment de nos échecs. Et le Seigneur là va nous tendre la main, nous faire franchir des étapes. Vraiment, vraiment. Vous connaissez ce qu'a dit Nelson Mandela à ce sujet, hein? Vous vous rappelez peut-être, hein? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est magnifique, hein? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il est devenu président après combien d'années en prison? Une trentaine, je ne sais plus. Incroyable quand même, cette histoire. Voilà. Incroyable. L'apôtre Pierre a appris de ses échecs. Il a pleuré amèrement. Il a failli se noyer alors qu'il marchait sur l'eau. Et l'apôtre Paul alors. Vous voyez l'échec un peu? Il croyait servir Dieu. Il blasphémait. Il était un persécuteur. Quelle humiliation! Que dois-je faire? Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Alors l'humilité, l'obéissance,
soumission.
La soumission et la confiance. Voilà. On te dira ce que tu dois faire. Bien, voilà comment on devient chrétien. Voilà comment on devient chrétien. Mon dernier mot, peut-être pour ce soir. Alors vous direz, il a beaucoup parlé de dons spirituels. Si, quand même, on en a parlé, mais j'ai surtout préparé le terrain. Oui. J'ai fait le Jean-Baptiste, quoi. J'ai préparé le terrain pour que l'Esprit agisse. Puisque c'est l'attitude, finalement, qui importe le plus. On ne va pas dire au Saint-Esprit, voilà ce que tu dois faire. On ne va pas dire au Saint-Esprit, voilà ta définition, c'est ça. C'est nous qui avons tout compris. Et non. Il sait, lui, ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit donner. Il sait la parole juste, la parole opportune. Vous voyez? Cette parole, dans le livre des Proverbes, dit, elle est comme une pomme d'or avec des ciselures d'argent. La parole à propos. La parole qui tombe juste. C'est formidable. Une parole qui tombe juste, elle dénoue des situations. Elle rend le Seigneur présent, là, comme au temps de Jésus, si vous voulez. Voilà. Eh bien... ces paroles, elles sont données et alors là, ben, je vais terminer comme cela, là nous sommes témoins, en même temps qu'acteurs de ce que Dieu fait. Ça je vais l'écrire quand même, en rouge. Ça ce sont deux mots très importants. Je ne sais pas lequel je dois mettre en premier, c'est ça le problème. Les deux sont importants. Témoins, et acteur, ça veut dire que je n'ai pas rien à faire, n'est-ce pas? Je n'ai pas rien à faire. Et témoin, ça veut dire que celui qui agit principalement, c'est Dieu. Voilà. Donc, dans la communauté, il n'y a pas rien à faire. Voilà, c'est offert à faire, on lui a mangé. Et puis, dans la ville, eh bien... briller comme des flambeaux dans le monde, annoncer l'évangile à toutes les nations. Bon, il n'y a pas rien à faire. Hein. Éduquer un enfant, ce n'est pas juste prier pour lui. C'est comme des enfants, là, hein. Vous êtes d'accord? Éduquer un enfant, ce n'est pas simplement prier pour lui. C'est aussi lui dire oui, 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 mais là, non. Et voilà pourquoi c'est non. On va t'expliquer pourquoi. S'il a 3 ans, c'est une chose. S'il a 12 ans, c'est autre chose. Ce n'est pas facile. Hein. C'est un métier difficile, très beau. Voilà. Donc, acteur, oui, mais en même temps, si on est témoin de ce que Dieu est en train de faire, ça c'est le meilleur, les deux. Pas juste témoin, mais pas juste acteur. L'acteur s'épuise, le témoin se réjouit. Et dans ce thème des dons de l'esprit, qui est un peu coûteux parce qu'il faut laisser la place au Seigneur, eh bien, il y a cette merveilleuse joie d'être témoin, d'être surpris de ce que Dieu peut faire. Ici et maintenant au milieu de nous. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et je propose que si dans ce que j'ai dit quelque chose vous a surpris ou posé question ou rejoint ou vous n'avez pas trop compris, eh bien, voilà, on peut en parler. Oui.
Ça avait dit qu'il valait mieux plaire au Saint-Esprit que d'en connaître la définition. Quand on parlait de définition, on voulait dire le connaître, le Saint-Esprit, ou savoir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit.
Alors, cette citation est donc de Thomas Aquinas, un moine hollandais du 14e siècle, je pense. Je dirais que quand il dit connaître la définition, je dirais, mais je n'étais pas à sa place, hein, mais il veut dire faire des beaux discours à ce sujet. Faire des beaux discours sur le Saint-Esprit.
Parce que je me disais, si on, comment on peut plaire à quelqu'un si on ne connaît pas la personne, savoir ce qui
peut
plaire à la personne.
Oui, tout à fait. Mais vous savez bien que connaître le Saint-Esprit, connaître Jésus-Christ, c'est pas, c'est une rencontre plus qu'une étude. Ça veut dire qu'on ne peut pas étudier. Hein. On peut étudier quand même, bien sûr, mais les pharisiens étudiaient la Bible et ne comprenaient rien, finalement. Hein. Vous sentez les Écritures hein, et vous ne voulez pas venir à moi. Et donc la connaissance dont il est question là, connaître le Saint-Esprit, connaître le Seigneur, cette connaissance, c'est un peu la connaissance que le sarment a du cèpe. C'est goûter la bonté. Connaître Jésus-Christ, c'est goûter sa bonté. Alors, je ne veux pas dire que... J'ai fait 6 ans d'études de théologie, hein, donc je veux dire... Je ne suis pas quelqu'un qui attend des miracles tous les jours en disant c'est pas la peine de lire la Bible parce que c'est fatigant. Hein. On est d'accord que c'est important d'étudier sérieusement la Bible. Voilà. Mais en même temps, comment dire cela? Jésus dit celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venir à Jésus, c'est ça qui permet de les connaître. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, on peut entendre d'excellentes prédications pendant des années et connaître peu de choses. Il y a des gens qui connaissent peu de choses, mais qui vivent beaucoup de choses. Je ne suis pas un mystique, hein, je ne suis pas un mystique. C'est-à-dire, je ne cherche pas l'expérience pour l'expérience. Mais, voilà, en français, le verbe connaître, il dit des choses très, très variées, et il y a des connaissances qui ne font pas avancer. Il y a des connaissances qui font avancer.
Mais si on veut plaire au Saint-Esprit, oui. Est-ce que c'est la même attitude? Si on veut plaire à Jésus, on peut plaire à Dieu aussi.
C'est la même attitude.
C'est la même attitude.
Oui, oui.
Donc, en fait, il ne faut pas peut-être vouloir se représenter exactement ce que c'est. À partir du moment où on le vit, on sait que ça existe.
Oui.
Donc, on sait que c'est vivant. Et c'est ce qui nous fait vivre. Donc, c'est... La définition, c'est plutôt ce qu'on veut dire aux autres. C'est difficile de définir aux autres.
Tout à fait.
Donc, d'où le témoignage.
Effectivement.
Et puis, montrer ce que ça agit. C'est là peut-être les nuances aussi sont compliquées des fois.
Tout à fait, je suis d'accord. Hein. Comment dire cela? Après la Pentecôte, les apôtres démontrent par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tout comme ça. Il fallait quand même continuer à étudier ce que disaient les prophètes, voilà, en disant, voilà, Dieu a agi. Étienne raconte toute cette histoire avant d'être lapidé. Pierre raconte aussi toute l'histoire du peuple d'Israël. Il y a donc une logique, il y a une connaissance. On peut être instruit, n'est-ce pas? On peut être instruit. Voilà. Apollos était instruit, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Bon, les lettres de Paul sont là pour être étudiées quand même, elles ne sont pas toutes faciles. Mais, donc, il ne s'agit pas de renoncer à l'étude, mais il s'agit de dire que l'expérience chrétienne n'est pas que le fruit de l'étude. Voilà. Ce n'est pas que le fruit d'une étude, c'est aussi le fruit d'une attitude de cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'humilité. Vous voyez, quand il nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Et donc, cette grâce, elle est enseignante. Cette grâce, elle est enseignante. Donc, celui qui est humble, il est instruit aussi. Autrement que celui qui écoute des prédications. Mais on ne va pas opposer les deux, vous comprenez? Mais l'attitude du cœur est très importante. Parce que Dieu n'est pas principalement un sujet d'étude, c'est une personne. Dieu n'est pas moins une personne que nous. Donc, vous imaginez qu'on étudie Dieu, on étudie Dieu pendant des heures et des heures sans trop se soucier de ce qu'il pense, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses en ce moment? Il faudrait quand même... C'est pas un détail, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Un petit peu. Vous voulez dire quelque chose?
Ah, pardon. Merci beaucoup, déjà, pour ce qu'on a entendu. C'était sur la femme samaritaine, quand vous dites que Jésus...
Ah oui.
Vous dites que le discours, il n'était pas très clair. Jésus avait besoin que le Saint-Esprit vienne pour que ça change de tournure. Ça m'a un peu, pas dire gêné, c'est la première fois que j'entends ça.
Oui, je comprends.
Moi, Jésus, alors peut-être je me trompe, hein, Jésus, il sait ce qu'il fait et il amène de cette façon. Et pour moi, Jésus est plein, le Saint-Esprit, il n'attend pas que. Ah voilà, je suis un peu.
Je comprends.
Mais à tout déplacer, je me dirais, alors est-ce que c'est un nouveau regard, c'est la première chose que j'imagine Jésus ayant besoin de faire appel au Saint-Esprit, comme s'il n'en serait pas assez rempli. Il y a quelque chose qui me.
D'accord. Alors c'est une vraie bonne question. Hein, c'est une vraie bonne question. J'essaie de répondre simplement. L'incarnation du Fils de Dieu, la parole éternelle de Dieu, faite chair, c'est un mystère. On est d'accord. Bon, donc là aussi, Luther, le grand Luther dit « J'ai cru devenir fou » en cherchant à comprendre tout cela. Ça veut dire qu'à la différence des théologiens d'aujourd'hui, qui, avec les outils des sciences humaines, veulent toujours aller plus loin dans leurs investigations, jusqu'à sortir de la foi, je parle de théologiens, Luther et Calvin, d'ailleurs aussi, bien qu'étant très érudits, ont borné leur étude là où la parole de Dieu ne leur permettait pas d'aller plus loin. Donc ils ont gardé l'attitude de disciples. C'est ça qui fait leur grandeur. Par exemple, Calvin, qui était un juriste au départ quand même, hein, quelqu'un qui a mis l'enseignement biblique en forme, de manière très structurée, il dit « la connaissance de Dieu est une vive expérience ». On ne s'attend pas à ça de la part de Calvin. Hein. La connaissance de Dieu est une vive expérience. Ce n'est pas juste un savoir éloquent. Je reviens à Jésus. Souvent, on dit, quand Jésus pleure, c'est un homme, quand il fait un miracle, c'est Dieu. C'est pas très juste. Jésus n'est pas tantôt un homme, tantôt Dieu. Jésus est la parole éternelle de Dieu qui s'est dépouillée de sa divinité pour prendre la condition d'un homme. Donc Jésus sur la terre, il est bien la parole de Dieu incarnée, mais il est un homme dans la même situation que nous, y compris la chair de péché. La seule différence, c'est qu'il n'a pas péché. Mais il est démuni comme nous. Il prie comme nous. Il a besoin d'être secouru comme nous. Et donc, si ce que je dis là est vrai, eh bien, Jésus a été secouru chaque fois qu'il en avait besoin, criant, suppliant, avec grand cri, dit l'Épître aux Hébreux, avec grand cri, et la Bible est très sobre. Hein, enfin, on en connaît au moins un de grand cri. Hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'humanité de Jésus, elle est quand même là. Très grand, n'est-ce pas? Voilà. Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, vous voyez? Donc, il a été secouru comme nous pouvons être secourus. Il est vraiment comme nous, Jésus. Et pourtant, je crois à la naissance virginale, il est le Fils, il est la parole de Dieu, faite chair. Mais faite chair, ce n'était pas juste une apparence. Il était comme nous, exactement. Et quand il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, alors là, je réfléchis avec vous, hein. Voilà, je crois que ça veut dire tous ensemble, pas un d'entre nous, mais tous ensemble, ça veut dire les ministères que Jésus avait, et les dons qu'il a manifestés dans son ministère sont répartis maintenant entre tous. Et donc l'un ceci, l'autre cela, et ensemble, notre témoignage, notre travail ressemble à celui de Jésus. C'est Jésus vivant par son Église. Vous comprenez cela? Mais nous sommes dans une situation proche de la sienne, où il était dans une situation proche de la nôtre. Ça répond un petit peu à votre embarras. Bon. Oui.
Ma question, elle allait un petit peu dans le sens de la question de Louisa.
Oui.
Puisque, effectivement, quand on parle des charismes, vous avez dit que c'est quelque chose de spontané, d'instantané.
Plutôt les pneumatikos.
Oui, voilà.
Les pneumatikos. Au charisme, j'ai une définition un peu différente.
Oui, les pneumatikos. Les pneumatikos.
Oui.
Mais Jésus, comme vous avez dit, quand il est sorti du désert, il était rempli de l'esprit.
Oui.
Et. En fait, juste avant le passage concernant sa rencontre avec la Samaritaine,
oui.
On disait que Dieu lui donnait l'esprit sans mesure.
Oui.
Donc, est-ce que justement le fait qu'il soit rempli de cet esprit, il n'avait pas besoin de recevoir sur l'instant, il avait déjà, ouais, il était déjà équipé pour pouvoir voir la situation de la Samaritaine, quoi.
Un peu comme il voyait Nathanaël sur le figuier, le loin. Il avait ce don de.
Moi j'ai pensé à la.
Oui, j'entends.
Oui, à la résurrection de Lazare.
Oui.
On dit qu'il pleure, pourtant il savait qu'il allait le ressusciter. Donc ça montre bien son humanité.
Complètement. Moi je crois qu'il a un don de soi. Je pense qu'il reçoit un don de soi, comme quelqu'un ici peut le recevoir. Pour dire Lazare sort. Et pourquoi, quand il prie, il dit je sais que tu m'exauces toujours, parce qu'il fait toujours la volonté de son Père. Et si nous demeurons en Christ et Christ en nous, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous le recevons. Donc la règle est la même, frères et sœurs. La règle est la même entre Jésus et nous. Et je ne suis pas en train d'abaisser Jésus, enfin, si, de l'abaisser, oui, il s'est abaissé. Donc c'est la pure logique de l'incarnation, mais je veux dire, je ne suis pas en train de le dénaturer, de le banaliser, de le rendre plus vil que ce qu'il était. Il n'était pas vil, il s'est tenu à l'écart du péché. C'était une lutte qu'on n'imagine pas probablement. Hein. Il a quand même sué du sang, il a transpiré du sang quand même, c'est arrivé à pas grand monde chez nous. Hein. Écoutez, l'esprit lui donnait sans mesure parce qu'il obéissait. Sans mesure. Donc ce n'était pas un mérite, mais la condition était remplie. C'est mon fils en qui j'ai mis tout mon plaisir. Et je pense que si un chrétien aujourd'hui, comment le dire ça? Comment le dire comme il faut? Si un chrétien aujourd'hui se tient si proche de Jésus qu'il a l'attitude que Jésus avait, la mentalité que Jésus avait, c'est ce que dit Philippiens 2, hein, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Voilà. La pensée, c'est pas la pensée, c'est la mentalité. La mentalité, la disposition. Ayez en vous la disposition qui était en Jésus. Donc il est un modèle. Hein. S'il était quelqu'un de hors norme, il ne serait pas un modèle. Hein. Vous comprenez? Il était comme nous pour que nous puissions être comme lui. Et nous sommes comme lui individuellement en tant que disciples, mais pour ce qui est de la plénitude, nous nous sommes ensemble. Vous comprenez? Personne n'a tous les ministères et tous les dons comme Jésus a eu. Donc Jésus avait bien quand même une dimension unique, c'est clair. D'abord, exemple de péché, et ensuite, l'esprit sans mesure. Mais enfin, quand même, il est dit que l'esprit est répandu sur les disciples à la Pentecôte. Répandu, ça ressemble à sa mesure. Hein. Donc, vous voyez, on peut dire, du côté de Dieu, il n'y a pas de restriction, si vous voulez. Le problème, c'est la connexion et le récepteur, pour employer des termes modernes. Hein. La connexion et le récepteur. Du côté de l'émetteur, il n'y a pas de problème. C'est merveilleux, quand même. Et je ne dis pas ça pour encourager la recherche du fantastique et de l'extraordinaire. Hein, parce que Dieu donne ses dons quand il veut. C'est-à-dire quelqu'un peut guérir ou mourir. Voilà, moi, j'ai perdu mon épouse, j'avais 43 ans, vous voyez. Et pourtant, on a prié. Et donc, vous comprenez, on n'est pas là pour commander Dieu non plus. Alors, est-ce qu'on a manqué de foi? C'est Dieu qui donne quand il veut, comme il veut. Mais c'est à nous de le recevoir, d'être à la bonne place. Hein. C'est délicat tout ça. Hein. C'est délicat. Hein. On avance sur la pointe des pieds, quand même.
On peut le rapprocher de la parole de Jésus dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture, en parlant du Saint-Esprit. » Et donc, on n'a pas le Saint-Esprit, une fois pour toutes. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui coule. C'est pas un lac, une réserve.
C'est j'entends. Jésus.
On est connecté et donc on reçoit cet esprit. Et Jésus, je pense que pour aller dans le sens de toute l'explication tout à l'heure, Jésus pleinement homme, c'est parce qu'il est connecté et le Saint-Esprit agit et au fur et à mesure, on lui dévoile.
Je crois aussi. Hein? Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est au fur et à mesure de la marche. Voilà. Hein? Quand Jésus dit à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire que la peine d'aujourd'hui correspond à la grâce d'aujourd'hui. Demain, il y aura une autre peine et une autre grâce, mais la grâce de demain, on ne la reçoit pas aujourd'hui. Et je pense que Jésus a marché au jour le jour aussi. Et quand Paul dit dans Éphésiens 5, soyez remplis de l'esprit, hein, soyez remplis de l'esprit, la traduction exacte, vous la connaissez, hein, soyez continuellement étant remplis de l'esprit. Donc c'est un présent continu, comme vous venez de le dire exactement. Donc c'est pas un lingot d'or sous le matelas, c'est une source qui s'écoule au fur et à mesure qu'on avance. Oui, c'est ça. Et donc on reste pauvre quelque part, mais on est riche de la fidélité de Dieu.
Et l'humilité, c'est de rester connecté pour pouvoir.
Oui.
Pour pas faire les rosiers.
C'est bien ça. Oui.
Moi j'ai été très touché par tout ce que vous avez dit.
Oui,
c'est ça. Ça me renvoie un peu, je dirais, à l'expérience que je peux vivre avec le Saint-Esprit.
Oui.
Et tout ce que vous avez dit, ça, pour moi, ça m'a beaucoup touché, notamment le sort du cercle et du serment, effectivement. Oui. C'est-à-dire que je crois que d'abord l'image de la croix est importante dans le brisement, dans la mort à soi-même. Et c'est la seule manière, finalement, de pouvoir enfin vivre avec l'Esprit. Aujourd'hui, je parlais avec mon épouse, le sujet que vous avez exposé, donc je suis touché.
Oui.
Vous parliez des lumières de cette époque que j'ai beaucoup étudié ce dernier temps, en demandant à l'esprit de me guider sur des sujets bien précis, et si je les ai repris aujourd'hui, je pense que ça bouleverserait tout le monde, parce que ça dépasse les codes de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a conditionné.
Oui.
Et la mort à soi-même, c'est la mort à notre propre nature.
Oui.
Mais c'est aussi la mort à notre conditionnement, c'est-à-dire à tout ce que le monde a apporté en nous. Ce que j'ai découvert, parce que j'ai prié, j'ai demandé à cet esprit d'être guidé, et il m'a emmené dans des endroits où je ne m'y attendais pas, mais c'était vraiment incroyable. Et c'est parce que vraiment, tout ça a été détruit avant. Et quand vous disiez aussi que la grâce intervient aussi chez les non-croyants, je le crois aussi, parce que moi je suis converti que depuis 2020, ce n'est pas très vieux, et j'ai une vie très particulière, à la fois très difficile et à la fois la grâce de Dieu a été là tout le long. Je l'ai compris 15-20 ans plus tard des fois, et la grâce elle prépare la terre avant que vraiment la semence elle puisse sortir. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. C'est vrai que ce qui m'attriste peut-être dans cette époque, c'est que finalement l'esprit est éteint, parce que je trouve que par l'organisation de l'église en règle générale, on ne laisse plus les voix s'élever et l'église vraiment agir comme un corps, c'est-à-dire que la main agit, le pied agit, et du coup, la croix m'a touché, et je veux ramener la croix au milieu de tout ça.
D'accord.
Parce que si la croix, si on n'est pas passé par la croix et qu'on ne s'est pas démuni de, c'est-à-dire comme disait Jésus, si on n'a pas renoncé à notre propre vie pour porter notre croix, alors la vie de l'esprit ne peut pas commencer. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est à partir du moment où vraiment tout a été mis à la croix, où j'ai renoncé à tout, jusqu'à ma vie, que vraiment je suis rentré dans une autre dimension qui a tout changé.
Merci.
Donc je vous remercie parce que j'ai trouvé que c'est très juste. Du début à la fin, puisque c'est aussi mon expérience, donc je vais vous partager.
D'accord. Merci beaucoup. Alors l'expérience n'est pas normative, hein, mais quand même elle instruit.
Oui. Voilà.
La prédication instruit, l'expérience instruit. Normalement les deux sont d'accord, parce que l'esprit et l'écriture sont d'accord, toujours d'accord. Voilà. Le même esprit qui a inspiré les auteurs confirme sa vérité dans notre cœur, et donc voilà, on peut dire là. La référence reste l'Écriture, mais le Saint-Esprit rend ce que dit l'Écriture vivant et actuel.
Ça va avec, c'est la lampe et l'huile. Les deux vont ensemble.
Oui, on peut dire ça probablement. Vous voyez pourquoi il faut qu'il y ait des nouveaux convertis dans l'Église, pas simplement pour couper les chaises, mais pour rafraîchir la foi de ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, et donc ceux qui sont nouveaux instruisent les plus anciens, et les plus anciens instruisent les plus nouveaux. D'accord, hein?
Oui. Voilà,
on a tous besoin de, d'être instruits. Gardons cette idée du petit enfant et de l'homme accompli. C'est un paradoxe. Hein? C'est comme quand Jésus dit « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents », on va dire « Comment c'est possible ?» Ben, c'est possible. C'est, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Et donc nous devons devenir non plus des enfants qui jouent à se faire plaisir comme ça, des hommes et des femmes capables de renoncer, capables de dire oui, de dire non, courage et bon sens. Et soyons comme des petits enfants qui se laissent conduire là où le Seigneur veut nous faire aller. Oui. Mais je suis à la même école. Hein. Et je suis exactement à la même école. Évidemment. C'est trop évident. Hein. Voilà. Oui.
Une question, Marc. D'abord, merci beaucoup pour le tact avec lequel vous avez parlé des dons de l'esprit. Et aussi, donc, parce que cette question peut se poser si les dons ils sont donnés à une personne, ou on peut penser à Pierre et tous les gens approchaient et guérissaient, enfin, ou si c'est donné tout ponctuel. Enfin, moi je rejoins tout à fait votre position, qu'ils sont donnés et aujourd'hui, mais la façon dont ils sont donnés, qu'ils sont ponctuels, en fonction des besoins, c'est cette attitude. Ma question est plus large, je voulais pas vous dessus, mais c'était par rapport à la question du conseil. Donc il y a cette partie des dons de l'esprit, mais pour le week-end, je voulais savoir si vous allez, j'ai vu pas situer sur le bon spirituel, mais parler des ministères, parce qu'en fait, une des raisons, c'est aussi les appels à rechercher, surtout l'absence de pasteur, les ministères, donc ça se réfère peut-être pas qu'aux dons de l'esprit, mais aux ministères dans l'Église, donc plutôt à des passages comme Ephésiens 4. Les deux sont sans doute liés pour l'histoire de l'appel, mais je ne sais pas si on en peut en parler, parce que bon, c'est un petit peu aussi l'appel pour encourager chacun à chercher à développer aussi ses ministères, diaconaux, etc. dans l'Église. Voilà, je ne savais pas
en parler. La question. On pourra en parler. Alors, je vais tout de suite. On peut s'arrêter quand là. On a 10 minutes.
Mais je ne voulais pas lancer un autre débat, qui n'était pas celui qu'on vous avait demandé, sur que si c'est que les dons spirituels, c'est les dons spirituels.
Oui, mais tout est lié. Voilà. Vous savez, les dons de l'esprit pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons de l'esprit, on en a parlé un petit peu. Le mot charisma, je le traduis moi par vocation. Alors, oui, c'est tout autre chose. On en parlera demain matin. Et donc vocation, c'est autre chose qu'un don ponctuel. Voilà. On va parler de ça demain.
Ça répond bien à la question. Je vais l'assurer que si on veut parler de des dons de l'esprit.
Oui. Voilà. Et donc chacun doit entrer dans sa vocation au singulier. C'est une difficulté, hein, au singulier. Par exemple, quand, je ne vais pas faire la prédication de demain, mais c'est pour vous donner envie de venir. Hein. Quand Pierre dit, Pierre 4.10, quand Pierre dit, comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu, c'est charisma. Et c'est au singulier. Vous comprenez? C'est charisma. Alors on dit, le don qu'il a reçu, mais oui, le don, c'est quand même le truc. C'est charisma. Et à mon avis, c'est la vocation. Et ça, c'est une difficulté. Moi, je n'ai pas tout élucidé, je vous prie de croire. Hein. Ça veut dire quoi, la vocation? Parce qu'on a plusieurs vocations. Moi, je suis papa, j'étais époux, je suis pasteur, je suis citoyen, je ne sais pas quoi encore, grand-père. Maintenant, ça, c'est des vocations, finalement. En plus, j'avais un métier, enfin bon. Mais il dit, la vocation. Eh bien, on va réfléchir à ça demain, que Dieu nous éclaire. Mais ça veut dire que dans le cadre du corps de Christ, on a sans doute chacun une vocation qui doit primer sur les autres et qu'il ne faut pas abandonner. Mais voilà, j'espère qu'on pourra avancer un petit peu. Et ça doit se concilier avec les dons de l'esprit qui sont donnés ponctuellement. Voilà les deux veines sur lesquelles on reviendra demain. Voilà, je... Est-ce que quelqu'un a encore une chose à dire ou...
Tout le monde me rappelait la manne dans le désert.
La manne dans le désert.
tout était donné jour après jour.
Eh oui.
Mais ce qui en a gardé,
eh oui,
elle se pouvissait.
Voilà. Et le vendredi, il y en avait deux fois plus. C'est incroyable, hein. Et oui. Il y avait la colonne de nuée, et quand elle avançait, le peuple avançait, quand elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. C'est magnifique quand même, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, comment dire ça? Aujourd'hui, on est dans une société de laquelle Dieu est évacué quand même de plus en plus, hein. Je ne vous l'apprends pas. Et donc, ce regard sur Dieu, vous voyez, il est plus difficile que jamais, et plus nécessaire pourtant. Sans faire de nous des chrétiens exaltés ou qui recherchent des miracles toutes les 3 minutes, il ne s'agit pas de ça. Voilà, resserrons notre lien avec le Seigneur. Je voudrais recommander un petit livre que certains connaissent, hein, qui s'appelle Le chemin du calvaire de Roy Ession. Pardon ? Roy Ession, un évangéliste anglais, a écrit un petit livre dans les années 50, hein, ou 60, qui s'appelle Le chemin du calvaire, et qui met la croix au centre de l'expérience chrétienne, ce qu'on appelait la prédication de la croix. Notre union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Aujourd'hui, on évite un peu ce passage parce que ça ne fait pas très, sexy, ça ne fait pas très vendeur, mais pourtant, c'est le message de l'Évangile. Sinon, on est des bricoleurs. Je vais ajouter un autre mot, un peu des profiteurs. C'est-à-dire qu'on est là pour ce qu'on peut profiter, vous voyez. Un chrétien n'est pas un profiteur. Il est au bénéfice de la grâce, hein, mais il n'est pas un profiteur comme quelqu'un qui va dans un dancing pour profiter d'un bon moment. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, il y a cette tentation d'annoncer un évangile de bien-être, d'apaisement, qui compense un peu les aléas d'un monde difficile. Et donc on va se faire du bien à l'église, mais d'autres vont au bistrot et d'autres vont à la pêche. C'est pareil, chacun va là où il veut. C'est pas ça. C'est pas ça, vous voyez? Que Dieu soit au cœur, vraiment. Ça, je ne vous l'apprends pas, mais je le rappelle simplement. Voilà, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire ça, frères et sœurs. Ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen.
Amen. Amen. Amen.